Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Le Journal de Montréal, Espace et Plein Soleil. Au programme, Montréal, l'île fertile, la tuque en train et la graine de caméline, un aliment d'ici qui gagne à être connu. Bonne écoute.
Montréal, l'île fertile, le vieux Montréal a déjà été couvert de jardins, alors que des milliers de pommiers poussaient sur le Mont-Royal et que la ville était le grenier à blé de la province. Voyage dans les souvenirs d'une île fertile et agricole. Un texte de Émilie Rivard-Boudreau, paru en automne 2021 dans la revue Quatre Temps. Elles étaient d'abord trois sœurs, le maïs, la courge et le haricot, nommés ainsi et cultivés par les Iroquois du Saint-Laurent, là où était installé le village d'Hochelaga. Si l'agriculture iroquoise a influencé le mode d'alimentation des premiers colons au XVIe siècle, le métissage culinaire n'a pas perduré et cette phase se termine presque abruptement à la fin du XVIIe siècle. Montréal conservera le maïs, probablement parce qu'elle est plus à proximité des Autochtones que d'autres lieux colonisés. Autrement, on va tout simplement rejeter massivement tout ce qu'on avait emprunté aux Autochtones, observe l'historien Yvon Desloges, auteur du livre « À table en Nouvelle-France ». Dès le XVIIe siècle, la colonie se mettra à la culture céréalière de seigle, de sarrasin, d'orge, d'avoine et de blé, froment. Comme l'explique Yvon Desloges, les Français sont habitués de manger du pain. Leur diète de base s'appuie sur une consommation de près d'un kilo de pain par jour. C'est énorme. Montréal va ainsi devenir le grenier à blé de la nouvelle colonie. Et poussent les légumes. En 1731, Montréal comptait 186 potagers sur les 379 maisons dans son enceinte, peut-on lire dans « Jardins et jardiniers laurentiens » 1660-1800 de l'historien Jean-Pierre Hardy. Pour la consommation de la maisonnée, la majorité des citadins entretiennent des jardins où poussent navets, betteraves, carottes, choux, oignons, échalotes et différentes laitues. Plus facile à conserver, les légumes racines ont la faveur des Montréalais au XVIIe et XVIIIe siècle. À l'époque, les institutions religieuses jouaient aussi un rôle majeur dans la production de légumes. Les archives de la ville de Montréal relèvent qu'en 1662, sœur Marguerite Bourgeois avait mis sur pied l'une des fermes les plus importantes de Montréal, la ferme Saint-Gabriel. Comme les gouverneurs, les intendants, les marchands et les organisations militaires, les congrégations religieuses faisaient donc appel à des jardiniers pour s'assurer de la quantité et de la qualité de leurs récoltes. Il n'y avait pas encore d'épicerie, rappelle avec humour Jean-Pierre Hardy, qui a dénombré 206 jardiniers privés à Montréal entre 1670 et 1799. Dans la seconde moitié du 19e siècle, il y aurait eu environ 1400 agriculteurs à Montréal, selon les archives de la ville. Le nombre de fermes chute de 45% jusqu'en 1921. Elles sont surtout localisées à Sainte-Geneviève, aujourd'hui l'arrondissement Île-Bizarre-Sainte-Geneviève, à Saint-Laurent, à Saint-Léonard et à Pointe-Claire. Le Montréal fruitier. L'historien Paul-Louis Martin, qui s'est intéressé à l'histoire de la production fruitière dans son livre « Les fruits du Québec », a constaté que le climat, la géographie et la topographie de l'île ont grandement contribué à faire de la ville un haut lieu de récolte. avec le Mont-Royal et ses pentes ouvertes au sud, protégées des vents du nord et plusieurs plans d'eau qui égalisent les écarts brusques de température, il y avait déjà, dès le début de l'urbanisation, toutes les conditions pour faire prospérer la culture fruitière, explique l'auteur. Dès le régime français, Montréal a donc vu apparaître de nombreux vergers. Comme pour la culture des légumes, les communautés religieuses ont été des pionnières, suivies par une diversité de producteurs. Près des deux tiers des propriétaires de vergers dits commerciaux appartient à une catégorie sociale assimilable à l'élite coloniale de l'époque. On trouve des marchands, quelques seigneurs issus de la noblesse, des officiers de l'administration civile, quelques militaires de rang, des artisans spécialisés, mais très peu d'habitants ordinaires, écrit Paul-Louis Martin dans Les Fruits du Québec. En 1731, on comptait 90 arpents, 30 hectares, de vergers sur l'île de Montréal, dispersés autour de la ville et sur les flancs de la montagne. 50 ans plus tard, leur superficie totale est passée à environ 402 arpents, 137 hectares. Certains vergers comptaient plusieurs centaines d'arbres, jusqu'à 1900 pour le verger de la côte Saint-Michel du marchand Jean Auria, en 1772. En 1825, le premier maire de Montréal, Jacques Vigée, dénombre 150 vergers. Avec la croissance fulgurante de la population et des bâtiments de la zone urbaine de Montréal, les grands vergers se sont multipliés, mais se sont surtout éloignés du centre de la ville. La liste des fruits cultivés est impressionnante. Plusieurs variétés de poires, de pommes, des cerises, des prunes, des fraises, des raisins, des vignobles à Beaconsfield et sur le Mont-Royal, et même des pêches. Dans un ouvrage anglais consacré aux fruits en Angleterre, j'ai retrouvé une photographie de la pêche noire de Montréal. Il y aurait donc bien eu une pêche à la peau très noire en 1817, évoque l'historien Paul-Louis Martin. Enfin, impossible de passer à côté du célèbre melon de Montréal. Avec ses fruits qui pesaient entre 6 et 8 kilogrammes, la famille de Benjamin Descaries acquiert la meilleure réputation de maître producteur des melons de Montréal. En 1881, les fruits sont expédiés dans les meilleurs hôtels de New York et de Boston et, au tournant du siècle, de Chicago. Dans les années 1920, l'arrivée sur le marché de melons plus légers et plus résistants au transport, venus du nord des États-Unis, aura raison des lourds et fragiles melons de Montréal. L'autoroute 40, le potager du futur. L'histoire d'une terre aussi fertile a de quoi faire rêver. Les membres de l'Alliance pour l'innovation dans les infrastructures urbaines de mobilité, Allium, vont encore plus loin, car ils espèrent transformer un jour la portion surélevée de l'autoroute 40 en une immense zone végétalisée. Leur projet, baptisé Métropoling 40, est chapeauté par l'horticulteur et biologiste Albert Mondor. L'idée serait de creuser sous le tablier de l'autoroute, comme on l'a fait à Boston dans le cas du Big Dig, d'enfouir les voies de circulation et d'utiliser le tablier pour créer un grand espace de culture, verger et potager, décrit-il. L'idée est née à la suite d'un appel de proposition lancé par la Biosphère pour son exposition MTL+, qui visait à réinventer quelques infrastructures montréalaises. Au départ, on voyait ça comme une proposition un peu utopique, mais plus on y travaillait, plus on s'est convaincu que c'était tout à fait réalisable, raconte Albert Mondor. Métropoling 40 serait un grand jardin composé d'une grande diversité de plantes comestibles. En appliquant les principes de la permaculture, on y planterait des arbustes, des arbres fruitiers et des herbacées comestibles dont certaines seraient vivaces. on a estimé que sur le tablier seulement, il pourrait y avoir jusqu'à 2 millions de pommes, de poires et de prunes récoltées chaque année et à peu près 50 tonnes de tomates, rêve Albert Mondor. Sous le tablier, on pourrait fermer des portions et cultiver à peu près ce que l'on veut sous l'éclairage avec chauffage, un peu comme dans des serres. On pourrait faire de la culture d'algues, de la pisciculture, de l'aquaponie, de la culture de champignons. Tout est possible, renchérit-il. En revanche, bien des années passeront avant de voir se réaliser Métropoling 40. De 15 à 20 ans, estime Albert Mondor, car il en coûterait autour de 5 milliards de dollars pour creuser les voies de circulation et construire une ferme sur le tablier. En attendant, l'Allium fait la promotion de son projet auprès des élus et de la population, en plus de faire valoir l'installation de murs végétalisés afin de mitiger les impacts de la rénovation imminente de l'autoroute. Une manière de patienter avant de faire revivre, qui sait, le Montréal agricole d'antan. C'était Montréal, l'île fertile. Le vieux Montréal a déjà été couvert de jardins alors que des milliers de pommiers poussaient sur le Mont-Royal et que la ville était le grenier à blé de la province. Voyage dans les souvenirs d'une île fertile et agricole. Un texte de Émilie Rivard-Boudreau, paru en automne 2021 dans la revue Quatre Temps. La tuque en train des neiges. Un texte de Barclay Fortin paru dans le volume 28, numéro 2, hiver 2022-2023, dans le magazine Espace. Vous rêvez de prendre un train comme le faisaient jadis les skieurs qui sillonnaient les Laurentides? On a testé un plan pour vous. Voyager en train pour aller passer un week-end des neiges dans une ville dont le nom est fait pour l'hiver. Ça y est, on est parti, pour vrai. Voilà ce que je me dis quand le train qui m'amène à la Tuque s'arrache enfin à l'île de Montréal en survolant la rivière des Prairies. On est vendredi, il est 10h du matin et on est à bord depuis 8h15. Parti en retard de la gare centrale, mon train des neiges a fait un long détour par le sud-ouest et beaucoup de surplace avant d'échapper à la métropole. Mais peu importe, maintenant qu'on file à travers les champs, la magie opère. Le train siffle, les arpents de neige défilent, je suis transporté dans l'inconnu. Le train nous fait voyager en coulisses. Il court la campagne, perce la forêt, fend les villages, qu'il nous fait voir de l'intérieur. Mettons que Saint-Tite a l'air encore plus western vu du chemin de fer. Le prix à payer, c'est la lenteur. Quand ça roule, mais quand on s'arrête. C'est surtout vrai à Hervé Jonction, l'escale où notre convoi doit se diviser en deux. Une moitié est en route vers le Saguenay, l'autre va m'amener à la Tuque avant de rallier Sainte-Terre en Abitibi. À bord, Lucie, notre hôtesse du rail, entretient la bonne humeur en animant son wagon comme Chantal Lamarre le fait avec une émission de télé. Les yeux dans ma fenêtre, je regarde passer les minutes. Quand on repart, mon train des neiges est réduit au minimum. Une locomotive, un fourgon à bagages et un wagon bien rempli. Dehors, on est dans les conifères et les collines enneigées jusqu'aux oreilles. À la Tuque avec pas de char. Quand on arrive à la Tuque vers 14h, je ziote l'une des attractions qui m'a donné l'idée de ce voyage de plein air par le chemin de fer. Les pentes de la station de ski locale qui surplombe la ville, à un jet de pierre de la gare. parfait pour un voyageur en train sur le point de devenir un voyageur à pied. Je remarque qu'il y a un poste de taxi juste à côté de la gare. Mais la Villa du Charme, mon gîte pour le week-end, se trouve à portée d'un marcheur qui trimballe son sac de voyage et sa gaine à ski. L'après-midi est avancé quand je finis de m'installer, mais ici on peut encore profiter de l'hiver à cette heure-là. La preuve, j'ai un rendez-vous randonné avec Claude Philibert, le dynamique président du tout aussi dynamique Club des Trois Raquettes. Au fil des années, ce club a tricoté au bord de la Tuque un très vaste réseau de sentiers accessibles en ville à partir de la station de ski alpin. En raquette, je suis mon guide sur un sentier qui gravit la montagne de ski. Très vite, on perd de vue la civilisation. C'est la particularité ici. Même proche de la ville, on est plongé en forêt, explique Claude Philibert alors qu'on atteint notre modeste objectif de fin d'après-midi, le Camp Bleu. C'est une jolie cabane en bois rond, parfaite pour casser la croûte. Mais mon guide me sert une autre gâterie. Un belvédère naturel qu'on rallie juste à temps pour voir le soleil se coucher sur la ville, qu'on peut voir au pied de la montagne. Belle façon de me rappeler pourquoi je suis venu à la Tuque en train plutôt qu'en auto. Vous écoutez « La Tuque en train des neiges », un texte de Barclay Fortin paru dans le volume 28 numéro 2, hiver 2022-2023, dans le magazine Espace. Du ski pour tous les goûts. Samedi matin, mes skis et moi sommes invités à une avant-première. Ça se passe à 5 minutes en auto du centre-ville, dans un secteur où le club des Trois Raquettes travaille à convertir d'anciens chemins forestiers en sentiers de ski de fond hors piste. Je suis avec un groupe de skieurs locaux mené par M. Philibert. On monte dans un large chemin puis dans un joli sentier étroit. Cet été, on va construire un relais au bout de ce sentier, m'explique Claude Philibert quand on dépasse une pile de matériel qui dort sous la neige. L'ouverture officielle de ces sentiers de ski nordique est prévue pour l'hiver 2022-2023. Et ça promet. Si je me fie à cette virée qui nous a aussi menés à un superbe lac entouré de collines. Sur l'une d'elles, le club compte bientôt bâtir un autre refuge où on pourra passer la nuit. À suivre, donc. Grâce à la proximité de tout ici, mon samedi de glisse comporte une deuxième escale. Ski La Tuque, la station de ski alpin qui fait carrément partie de la ville. C'est doublement vrai puisque la montagne est exploitée par la municipalité. Résultat, à La Tuque, la glisse est abordable. Même les touristes ont droit à un deal dont le nom est inspiré de la route qui dessert la région, la passe 155. C'est une journée de ski pour toute la famille, maximum 4 personnes, offerte à $55 à tous ceux qui habitent à plus de 100 km. Modeste avec ses 166 mètres de dénivelé, la montagne m'en a quand même mis plein la vue et les skis. Et comme elle reste ouverte jusqu'à 20h le samedi, j'y ai croqué ma plus belle image mentale du week-end, la ville qui brille dans la nuit alors que je descends vers elle en pilotant mes planches. Mon problème du dimanche matin. Le club de ski de fond, La Tuque Rouge, est un peu trop loin pour que je m'y rende à pied. Ma solution, tenter d'y aller en ski via une piste cyclable qui commence pas loin et qui va jusqu'au club. Coup de chance, il neige fort sur La Tuque quand je me mets en route. Une courte marche plus tard, je glisse dans la poudreuse qui recouvre le fond durci de la piste cyclable. Quand j'arrive au club, son président, Yves Greffard, peste un brin contre cette bordée qui a enseveli ses pistes. « C'était tellement beau hier », lance-t-il à un autre bénévole qui s'en va damer les sentiers de vélo-neige qui côtoient les pistes de ski. Ces pistes se déploient au bord du Saint-Maurice. Entre le plateau où se trouve le chalet d'accueil et la rivière, il y a une quarantaine de mètres de dénivelé qui ajoute quelques bonnes côtes au réseau. Fendant la nouvelle neige, mon guide m'amène au bord de la rivière, puis au relais du club par de larges corridors, classiques et skate. La majorité des pistes du club sont dans ce style hybride permettant de skier en ornière ou d'exercer son pas de patin, mais il y a aussi quelques sentiers plus étroits réservés aux classiques. Près du relais, la grosse dameuse du club nous dépasse en moulant des sillons parfaits et un impeccable couloir de pas de patin. Monsieur le Président est ravi que la visite voit ses sentiers à leur meilleur. Mais la vraie bonne nouvelle de la journée, c'est que l'horaire du train laisse aux voyageurs le temps de profiter de leur dimanche à la tuque. Mon départ de la gare est prévu pour 14h53. « Mais t'es mieux d'appeler, on sait jamais avec le train », me dit Lynn, ma logeuse, pendant que je plie bagages. Finalement, mon voyage de retour dure plus longtemps que prévu. J'ai donc amplement le temps de constater que, plus au sud, la bordée qui a blanchi la tuque ce matin est tombée en pluie et en verglas. Juste pour ça, ça valait la peine d'essayer ce train des neiges. C'était « La tuque en train des neiges », un texte de Barclay Fortin paru dans le volume 28, numéro 2, hiver 2022-2023, dans le magazine Espace.
La graine de caméline, un aliment d'ici qui gagne à être connu. De Valérie Savard, paru dans la revue Plein Soleil à l'automne 2021. Qu'est-ce que la caméline? La caméline est une petite fleur jaune qui appartient à la famille des crucifères. Sa graine peut être récoltée afin d'être mangée telle quelle ou encore pressée à froid pour en extraire l'huile. La graine de caméline est utilisée depuis des milliers d'années un peu partout à travers le monde. Originairement utilisée pour nourrir les animaux, son goût léger de crucifère et de noix ainsi que son excellente valeur nutritive ont poussé certains producteurs à développer le marché pour la consommation humaine. Une petite graine aux grandes vertus. Une portion de 20 g de graines de caméline, soit une cuillère à soupe et demie, contient 4 g de fibres, 4 g de protéines et 1,5 g d'acide gras oméga-3. De son côté, l'huile de caméline, avec son contenu étonnant de 35% en acide gras oméga-3, est une des huiles avec la teneur en oméga-3 la plus élevée. Les oméga-3 sont favorables à la santé du cœur. La graine et l'huile de caméline sont également des sources importantes d'antioxydants de la famille des tocophérols, dont la vitamine E fait partie. Un produit d'ici. Comme mentionné précédemment, la caméline est une plante indigène qui pousse dans plusieurs régions du monde. Depuis les dernières années, elle fait partie de la production agricole de certaines de ces régions, dont le Québec. En effet, on retrouve au Québec quelques producteurs de caméline et la plupart des champs où pousse cette fleur sont certifiés biologiques. Les produits de caméline vendus ici sont donc principalement biologiques et locaux. Comment la consommer? La graine de caméline se consomme telle qu'elle, crue, torréfiée ou encore moulue. On peut l'utiliser comme on utiliserait la graine de sésame. Par exemple, en enrobage de poisson, en panure ou façon tataki, ou encore grillée en garniture pour des salades, des sautés, des pokés, etc. Comme la graine de chia ou la graine de lin, la graine de caméline a la capacité de former un gel lorsqu'elle est incorporée à un liquide. On peut donc l'utiliser pour en faire des puddings. Elle s'apprête aussi bien moulue pour enrichir les recettes de smoothies ou de muffins. Quant à l'huile, celle-ci possède un goût subtil de noisettes et de sésame et des arômes herbacés d'asperges. Elle peut servir à aromatiser des plats de pâtes, des pizzas, des tartares ou encore pour faire des marinades et des vinaigrettes. Sa grande capacité à tolérer la chaleur en fait aussi une excellente huile pour la cuisson. L'huile de caméline est même utilisée en cosmétique pour ses nombreuses vertus pour la peau. Combien ça coûte? Le prix de la graine de caméline se compare au prix des autres graines populaires. Il faudra débourser environ 2,80 $ pour 100 grammes de graines de caméline, alors que pour la même quantité, la graine de lin coûte 1,17 $, la graine de chia 1,60 $ et la graine de chanvre 3,51 $. L'huile de caméline, comme les autres huiles plus haut de gamme, est plus dispendieuse que la plupart des huiles que l'on retrouve sur les tablettes. Il faudra débourser entre 3,40 $ et 5,20 $ pour 100 ml d'huile de caméline. La graine et l'huile de caméline peuvent être des produits plus difficiles à trouver puisqu'ils sont principalement vendus dans les épiceries fines ou encore dans les magasins de produits de santé naturelle. En conclusion, le goût et la valeur nutritive de la graine et de l'huile de caméline en font des produits très intéressants à ajouter à son alimentation. Cependant, ils ne sont pas obligatoires et le plus important reste d'adopter une alimentation saine et équilibrée comprenant une grande variété d'aliments. C'était La graine de caméline, un aliment d'ici qui gagne à être connu, de Valérie Savard, paru dans la revue Plein Soleil à l'automne 2021.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Gilbert Lepage à la lecture, Diane Métayer et Anne Hébert à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.